gosta.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le vendredi 12 février 2016. Dans un instant, on retrouve notre tête chercheuse, Renaud Nathiez, l'universitaire tintinophile. Depuis lundi, il nous explique le mystère Tintin et surtout les raisons de son succès universel. Dans un instant, donc, cinquième et dernier épisode. Et puis en deuxième partie, drôle d'hommage à Hergé avec Emmanuel Rabu et Johann Gerner qui sortent bientôt aux éditions L'Association. Hergé, renseignements généraux, on en parle tout à l'heure, aux alentours de 6h15. Tout de suite, tête chercheuse.
Brahma. Je connais cette musique. Trop tard, elle a disparu.
Pourquoi semblez-vous si inquiet, Altesse ?
C'est affreux, comment vous dire ? Mon père et mon frère sont devenus fous l'un et l'autre. Or, à chaque fois, juste avant que leur raison bascule, cette musique diabolique s'était fait entendre.
Et vous craignez qu'un nouveau malheur ne se produise ?
Oui, et cette fois, j'en suis sûr, c'est à moi que s'adresse le terrible avertissement.
Ils sont devenus fous, dites-vous.
C'est la vengeance de la bande. La flèche qui m'a
quitté. Tintin encore et toujours, une série par Renaud Nathiez. Aujourd'hui, dernier épisode, Tintin, une légende structurée. On va parler maintenant de la structure des aventures de Tintin, Renaud Nathiez. Bonjour.
Bonjour. En lisant progressivement et en relisant, parce que Tintin, la spécificité aussi, c'est qu'on le relit 500 000 fois. On se demande d'ailleurs pourquoi on relit autant Tintin. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais je crois que c'est aussi à cause du foisonnement de détails qu'on retrouve toujours dans Tintin qui nous avait échappé. Et à la 500e lecture, vous trouvez des petits détails qui vous avaient échappé. Mais en relisant comme ça Tintin... Moi, j'ai eu très tôt l'intuition qu'il y avait une structure extrêmement rigoureuse, peut-être inconsciente à l'auteur, j'en sais rien, qui revenait, enfin qui est mise en place progressivement et qui, une fois qu'elle est installée, revient avec une régularité extraordinaire dans le découpage des albums. Et on le sent. Tout le monde, beaucoup de gens m'ont dit oui, mais ça, on le sait, on le sent qu'il y a une structure. Je dirais encore faut-il le démontrer. Hein, on le sent dans James Bond. Je pense que dans James Bond, on sent qu'il y a des arrivées des différentes femmes, des James Bond girls à différents moments. Je pense que ça serait intéressant de faire le travail qu'on a fait là sur la structure de Tintin sur James Bond. Je suis pas persuadé qu'on retrouve les mêmes invariants structurels dans d'autres bandes dessinées avec la même régularité.
Vous voulez dire qu'il y a une formule Tintin ?
Ah oui. Il y a des invariants, il y a une structure qui rassure avec des éléments qui interviennent quasiment parfois au même moment, aux mêmes pages, depuis le début jusqu'à la fin. Pas rentrer trop dans le détail, mais si vous prenez par exemple la conclusion des Tintins, vous avez toujours dans la conclusion des Tintins quatre éléments. À partir des cigares du pharaon, qui sont la joie de Tintin. Tintin explose le joie. Ça veut dire le dénouement. Vous avez un gag final qui détend l'atmosphère. Vous avez le retour des personnages chez eux. Et vous avez comme quatrième élément un hommage à Tintin. Alors, il y a des variantes. Il y a quelques exceptions. Mais ces quatre éléments-là, ils apparaissent quasiment, alors au même endroit en plus, hein, dans tous les albums. Une espèce de comique de répétition à la Molière, c'est-à-dire que on a une répétition, mais dans la différence. C'est ça qui est intéressant.
Mais rien de plus normal pour une aventure de bande dessinée que de bien de se terminer.
Ah oui, mais vous n'avez pas forcément, ça n'est pas complètement le cas dans tous les Tintins de bien se terminer. Vous avez des Tintins où il y a plutôt une incertitude. Je dirais qu'on est...
Qu'une suite est prévue.
Oui, mais enfin, vous prenez On a marché sur la Lune. Alors, c'est vrai qu'il rentre indemne, il rentre à la maison. Mais enfin, vous avez quand même deux morts, dont Wolf qui se jette dans le vide, dans l'espace, qui se suicide. Wolf, c'était pas franchement un mauvais quand même.
Il a trahi.
trahi. C'est infaible.
Oui, oui, il a trahi. Mais enfin, bon, la fin de l'étoile mystérieuse, vous n'êtes pas sûr que le professeur Callis puisse faire grand-chose de son minerai. Bon, les bijoux de la Castafiore, ça finit bien. On a retrouvé l'émeraude, mais enfin, ça va pas très très loin. Et puis alors, vous en avez beaucoup quand même, où on laisse fuir le méchant. Rastapopoulos, il échappe tout le temps. Il échappe dans Coquenstock, il fuit, il revient après. Dans Vol 714 pour Sydney, on croit qu'il a disparu puisqu'il est dans la soucoupe volante. Mais en réalité, il reviendra dans le dernier album inachevé, Tintin et l'Alfart, sous la forme d'un gourou. Non, il y a beaucoup d'albums qui sont mi-figue, mi-raisin quant au succès final.
S'il fallait parler des autres éléments structurants d'une aventure de Tintin, Renaud Nathiez.
Moi, j'avais. Ce qui m'a donné cette idée, c'est en étant étudiant de philosophie quand j'étais plus jeune, il y avait Platon qui était un des auteurs qui était donné à l'agrégation, et il y avait un commentateur qui avait fait une étude très 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 éclairante de la dialectique platonicienne en étudiant la structure des dialogues. Et il avait fait un découpage qui était absolument, vraiment très 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 positif, qui permettait de comprendre, et c'était limpide, de quelle façon Socrate conduisait ses disciples d'une question, qu'il appelait une question initiale ou une question préalable, à l'essence d'une valeur. Hein. Il cherchait qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le vrai, qu'est-ce que l'amour, etc. Et je me suis dit, en lisant Tintin à l'époque, je pense qu'on peut faire la même chose avec Tintin. Et je me suis lancé dans le décortiquage des 1500 cases, je crois, qui doivent exister dans Tintin, en essayant de répertorier case par case, effectivement, comment ça se déroulait. Et on s'aperçoit qu'il y a une analogie intéressante entre Tintin et Socrate, qui fait que Tintin se bat contre des multiples obstacles, de la même façon que Socrate doit lutter contre les réticences des sophistes, des disciples qui ne le suivent pas. Et Tintin, lui, il a à se battre contre les ennemis, contre les obstacles naturels, et même beaucoup contre ses propres amis. Hein, les Haddock qui veut plus avancer. Et Tintin, il utilise pour arriver au bout, c'est-à-dire pour arriver au but suprême, on disait tout à l'heure la victoire du bien, il utilise des ruses comme les ruses de la dialectique utilisées par Socrate. C'est-à-dire qu'il va donner du cognac à Haddock pour le relancer, il va jouer sur sa susceptibilité, il va lui dire « bah oui, vous avez raison, on est trop vieux », enfin, etc. Et il y a ce cheminement qui est extraordinaire à étudier dans Tintin, vers la victoire finale, que moi j'ai découvert en faisant le découpage, en fait. Mais bon, dans mon livre, je fais des tableaux qui sont vraiment, à mon avis, très très éclairants, et qui montrent que les albums canoniques retrouvent cette structure qui finit, je pense, par inconsciemment rassurer le lecteur. Parce qu'il s'attend à retrouver, y compris les tout jeunes enfants, hein, malgré les morts, l'angoisse et tout, il s'attend à retrouver un petit peu les mêmes éléments. Et qu'est-ce qui se passe? Alors, deux points vraiment intéressants, c'est que les bijoux de la Castafiore, album pastiche, comment fait Hergé pour faire penser que c'est un album comme les autres? Eh bien, la structure, elle est complètement respectée, du début à la fin. Les éléments dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire le gag, le retour à la maison, Haddock, il prononce les mêmes paroles que quand il revient du Kemed, il dit quel plaisir de se retrouver chez soi. C'est exactement les mêmes éléments structurels, sauf le départ en voyage, évidemment, puisque là, il n'y a pas de départ en voyage. Mais sinon, vous retrouvez les mêmes éléments. Vous avez un des éléments structurels que j'analyse, c'est un moment où Tintin se met à courir. Tintin se met à courir, c'est le moment où, ça y est, l'aventure est lancée. On le retrouve dans tous les albums, hein, mais à part les trois premiers, hein, qui ne fonctionnent pas comme ça, c'est une succession de péripéties. Mais à partir des Cigares ou du Lotus Bleu, on retrouve l'image de Tintin qui se met à courir. Et ben, dans les bijoux de la Castafiore, pareil, vers les pages 13-14, il y a les paparazzi là, qui sont dans les jardins de Moulinsart. Tintin, il se pose des questions, qu'est-ce que c'est? Il y a eu des trucs mystérieux. Et il se met à courir. Et là, il y a les mêmes éléments. Il commence à rentrer un petit peu dans le mystère. Et dans les deux suivants, donc Vol 714 pour Sydney et Tintin et Picaros, vous ne les trouvez plus. Ils n'y sont plus, les éléments structurels. Ils ont disparu. C'est assez étonnant. Et voilà pourquoi je dis que c'est vraiment des albums à part. Ils sont non seulement à part dans la déconstruction des personnages, mais ils sont à part dans la déconstruction de la structure. Et quand on dit que Les Bijoux de la Castafiore, c'est une déconstruction de la structure, pas du tout, c'est le contraire. C'est au contraire l'affirmation de la structure canonique. Je pense qu'Hergé lance Tintin pour être le gardien de la structure. C'est en termes, se référer à Heidegger, c'est le berger de la structure, Tintin. Il est là pour remettre tout le monde dans le droit chemin et pour faire que l'histoire aboutisse bien. Et Benoît Peters avait fait une analyse intéressante entre Centrifuge et Centripète. Il disait que dans un premier moment, Hergé avait mis en place sa structure avec ses différents éléments. À mon avis, elle est bien en place avec l'oreille cassée, le cèpe d'autocar. Et puis là, il s'est dit, donc ça c'était le mouvement Centripète, et Tintin jouait un rôle essentiel. Et dans le cèpe d'autocar, on se dit, mais le risque, est-ce que c'est pas la monotonie? C'est-à-dire qu'à force d'avoir cette structure immuable, est-ce qu'on va pas tourner en rond? Et qu'est-ce qu'il fait dans l'album suivant, Le Crabe aux Pinces d'Or?
Il introduit un personnage nouveau, voilà. Le capitaine Haddock.
Voilà. Qui va exercer un rôle centrifuge. C'est-à-dire qu'il va s'ingénier à essayer de faire dévier l'intrigue et Tintin du droit chemin. Et Tintin va avoir beaucoup de travail pour essayer de lutter contre ça. Et il va avoir ce rôle encore plus fort de gardien de la structure. Et qu'est-ce qui se passe dans les deux derniers albums? Tintin, je veux plus jouer le jeu. Il se rebelle, il veut plus partir en voyage. L'aventure lui tombe dessus. Il veut plus être le gardien de la structure. Alors, dans les deux cas, c'est pas un vrai voyage. Dans le premier cas, vol 714 pour Sydney, c'est un détournement d'avion. C'est pas Tintin qui choisit de partir et de résoudre une énigme ou d'aller sauver un proche. Il est détourné. Il veut pas aller là-bas. Il voulait aller suivre un congrès d'astronautique à Sydney. Et pour les Picaros, vous avez le cas unique dans Tintin où le héros principal est absent pendant une quinzaine de pages. C'est-à-dire que c'est il joue à front renversé, Haddock et Tournesol, ils décident de partir au San Theodoros sauver les personnes emprisonnées, et Tintin il dit non, c'est un piège, vous allez tomber dans un piège, moi je veux pas tomber dans le piège de Tapioca, et Hergé ça a dû le titiller peut-être de laisser Tintin à Moulinsart faire son yoga, mais malgré tout, ça aurait été difficile hein, d'avoir une aventure sans Tintin.
Mais qu'est-ce il n'y aurait que ça eu que Tintin. Ça veut dire qu'il a été contraint de faire cette aventure comme Tintin est contraint d'aller rejoindre ses amis dans l'immonde dictature tenue par Tapioca.
Exactement. Rappelez-vous, quand Tintin arrive à l'hôtel où est enfermé Haddock, il lui dit je crois que c'est un piège, mais malgré tout, il a mauvaise conscience. Il dit
quel retournement de situation, généralement c'est le contraire.
C'est à front renversé total. Ils sont complètement. C'est Haddock qui provoque l'aventure. Tournesol aussi, il veut y aller. Et Tintin qui veut plus bouger, quoi. Il veut plus voyager.
Alors, quelles sont les aventures de Tintin que vous mettez en tête de votre playlist, si je puis m'exprimer ainsi, Renaud Latiez, pour terminer cette série?
Je vous l'ai dit, les bijoux de la Castafiore, c'est la perfection, parce que c'est un gigantesque clin d'œil qui boucle l'œuvre. Au point de vue qualité du graphisme et du scénario, je crois que l'affaire Tournesol, c'est vraiment l'album classique, très abouti, hein. C'est vraiment très très riche, avec trois intrigues qui se superposent.
Thank you.
Alors moi, il y a un album que j'aime beaucoup, c'est Le Secret de la Licorne, mais je pense surtout à des scènes mythiques plutôt qu'à un album. Vous avez dans Tintin vraiment deux scènes extraordinaires. C'est la scène du zouave dans Objectif Lune, quand Tournesol
fait
traiter de zouave et qui l'emmène. Alors là, les rôles sont complètement délirants, Tournesol. Et ça lui reviendra dans des albums plus tard, dès qu'il entendra un petit peu prononcer le mot zouave. Tout de suite, vous avez sa moustache qui se hérisse, on sent que ça va reprendre et que Haddock le calme. Et puis, vous avez le récit du combat du chevalier de Haddock avec le pirate Rackham le Rouge. Alors ça, ce récit, il dure longtemps, hein, il doit durer une quinzaine de pages dans Le Secret de la Licorne, est absolument extraordinaire du point de vue bande dessinée, parce que vous avez à la fois Haddock en réel qui raconte l'histoire à Tintin, on a les images tout de suite après que décrit Haddock qu'il a lu dans le récit. Haddock qui illustre en buvant ce que fait son ancêtre en buvant de la même façon. À la fin, le chevalier de Haddock, il fait un geste de côté pour éteindre la mèche qui met le feu à la dynamique. Haddock mime ça en appuyant sur la queue de Milou. Mmh. Et bien, il blesse Milou. Alors, bon, la queue de Milou, on aurait pu en parler aussi beaucoup. Et donc, il y a un enchevêtrement de la fiction et de la réalité qui est tout à fait extraordinaire dans cette scène.
La série de Renaud Nathiez est désormais disponible dans son intégralité. Si vous voulez la podcaster, c'est à la page de l'émission Un autre jour est possible. Vous pouvez trouver dans cette même page la biographie et surtout la bibliographie de notre tête chercheuse de la semaine, Renaud Nathiez. Le mystère Tintin, les raisons d'un succès universel, c'est aux Impressions Nouvelles et ça vient de sortir et c'est passionnant. Merci d'avoir passé cette semaine avec nous.
Merci infiniment.
Un autre jour est possible. Votre réveil culturel, tous les jours, de 6h à 6h30, par Toufik Hakem. Deuxième partie, l'invité du jour.
Et cette semaine, Tintin encore et toujours se termine avec deux invités de taille, Emmanuel Rabu et Johann Gerner. Bonjour.
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 Vous êtes deux tintinophiles. Je peux vous présenter comme ça? Il va falloir que je trouve un moyen de vous présenter, sinon d'attirer l'attention des auditeurs que ces deux atypiques auteurs de bande dessinée préparent un livre que l'association doit sortir en juin 2016 et qu'ils ont accepté de venir en dehors de tout cadre promotionnel parler de Tintin, eux qui sont vraiment deux maniaques, puisque vous sortez un livre qui décrypte Hergé par le petit détail, les tout petits détails. Alors, est-ce que d'abord vous aimez Tintin?
Moi, je suis vraiment un fan de Tintin, depuis très longtemps, depuis que je suis tout petit, et ça fait partie des quelques œuvres, j'ai 44, 45 ans, qui m'ont accompagné depuis l'âge de 7 ans, quoi. Alors, j'aime pas tous les albums de Tintin, également. J'ai des albums favoris, mais je peux dire que je suis un fan de Tintin, oui.
Johann Gerner.
Moi, ce qui m'intéresse, enfin, au-delà de, effectivement, le plaisir que j'ai pu avoir enfant à lire les albums de Tintin, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de voir tout ce qui est encore possible de trouver, de forer. Enfin, c'est une sorte de matière presque inépuisable, en fait, qui vient en ricochet avec l'actualité, avec l'histoire, avec plein de choses. Et en fait, c'est la manière dont nous, on peut explorer à la fois les souvenirs qu'on a eus en tant que lecteur enfant et en même temps faire des découvertes aujourd'hui. Et suivant l'angle qu'on prend pour le lire, j'ai l'impression que c'est comme une sorte de territoire qu'on peut arpenter de manière tout à fait nouvelle, en fait.
D'une manière tout à fait nouvelle et même libre, d'ailleurs. Je ne sais pas si Boulinsart va accueillir avec joie l'ouvrage que vous consacrez à Tintin, qui sort donc cet été chez l'association. Beau titre, RG, Renseignements Généraux. C'est un beau titre parce qu'au-delà du jeu de mots, il correspond très bien à votre décryptage de la ligne claire d'Hergé.
Oui, il y a un côté un petit peu de travail un peu analytique en fait, c'est-à-dire que voilà, on part sur des données, des faits par l'entrée, c'est un petit peu l'aspect chromatique et donc la couleur. Et voir comment la couleur peut définir la globalité d'un album, en fait. Et c'est-à-dire que même si pour certains albums, dans les premiers, la couleur n'a été pensée qu'après, il y a toujours une sorte de logique avec une couleur récurrente, une sorte d'ensemble, de gamme colorée qui surgit dans chaque album et qui le définit, en fait. Et donc, suite à cette découverte-là, voilà, on avait l'impression qu'il était possible de s'aventurer et de faire plein de nouvelles découvertes en ce sens.
Alors, par exemple, s'il fallait prendre une couleur précise dans l'œuvre d'Hergé.
Par exemple, une couleur peut-être non évidente, ce serait le violet dans Les cigares du pharaon.
Mmh. Ça tombe bien.
Qui est une couleur très intéressante parce que c'est le premier album, si on veut, qui commence la mythologie. C'est le premier album à partir duquel arrivent des personnages qui seront récurrents. Donc c'est l'album de la distinction, qui distingue les individus avec une psychologie de ceux qui n'en ont pas, ce qui était le cas des albums précédents. Et c'est aussi très intéressant parce que c'est un album qui distingue la figure animale de la figure humaine. Donc il y a une double distinction comme ça, par le violet, qui est la couleur de la tunique, essentiellement des vêtements.
Et c'est une interprétation, donc.
Oui, c'est une interprétation comme finalement tout lecteur interprète à sa manière et se saisit d'une histoire, en fait, pour la vivre lui-même en fonction de ses propres codes, de son propre vécu. Et donc, c'est une interprétation, ce sont des suggestions, ce sont des expériences avec la matière graphique et littéraire que propose Hergé, en fait. Et voilà, oui. On joue avec ça, en fait.
C'est la question, comment est-ce qu'on prolonge une mythologie? Comment est-ce qu'on maintient vivante une mythologie? Alors, on en a vu, par exemple, l'année dernière, ce qu'a fait J. Abrams avec Star Wars. Il a choisi de faire un remake, par exemple. Avant, quand il a fait Star Trek, il avait un peu dénaturé la franchise. Je pense que nous, on fait une espèce de fiction théorique, une espèce de poème théorique qui est une manière de poursuivre sans vraiment dénaturer.
Ouais. Oui, il n'y a pas d'attaque. En fait, c'est plus une sorte de, aussi parfois, peut-être d'ironie, en fait. Mais il y a vraiment aussi un travail à la base très, très protocolaire, en fait. C'est-à-dire que si on part sur le corpus textuel de l'ensemble défini par l'ensemble des bulles et des cartouches des planches, et que qu'on relève l'ensemble des notions de couleurs, des mots faisant référence à une couleur, et après, à partir de là, on essaye de construire toute une planche, enfin toute une nouvelle bande dessinée, en choisissant des détails dans la planche d'où est extrait le mot, pour essayer de définir par un trait, par le dessin, par un dessin noir et blanc, la notion de couleur évoquée par Hergé. Donc c'est des sortes d'allers-retours comme ça, et de voir comment mentalement on peut essayer de construire une sorte d'histoire parallèle qui court des soviets jusqu'au Picaros.
Voilà, et avec un effet de loupe, parce qu'il s'agit aussi de traquer le petit détail dans la case, dans l'œuvre d'Hergé.
Là, il y a aussi l'idée de s'approcher, de regarder jusqu'à la trame, jusqu'au défaut d'impression, et essayer de redessiner ça, ce qui fait la spécificité d'un livre imprimé, d'une bande dessinée, c'est-à-dire le livre papier et la trame, et donc redessiner jusqu'au point de trame en les exagérant, mais aussi ce fait de vouloir redessiner des détails jamais plus grands que 1,5 cm de côté, et les agrandir en les dessinant en plus grand, c'est essayer d'avoir une sorte d'effet loupe et d'observer comme un entomologiste, on peut observer un bout de terre.
Merci d'être passé ce matin.
Merci.
Emmanuel Rabu, Johann Gerner, j'espère qu'on se retrouvera avant la fin de l'année pour annoncer la sortie de ce livre Hergé, Renseignements Généraux.
Hergé, au micro de Jacques Chancel, une radioscopie de 1979.
On ne sait pas ce que peut réserver l'avenir. Peut-être non, votre personnage pourrait-il être important dans une cause. Alors pour quelle cause pourriez-vous l'utiliser ?
Contre la pollution, par exemple, des mers, par exemple. Contre la faim dans le monde, par exemple. Voilà, deux choses.
Mais vous ne l'avez pas installé dans ces univers-là.
Parce que Tintin n'est pas capable de vaincre sur ce terrain-là. Il peut triompher de méchants personnages et de toutes sortes de choses, mais pas de ce qui se passe maintenant. C'est trop grave pour que je puisse, moi, me substituer à Dieu, être le démiurge qui le fait triompher de choses aussi graves que celles-là.
Mais à certains moments, Hergé, vous n'avez pas été pris d'une forme de vanité, car lorsqu'on entend un homme comme De Gaulle dire « André Malraux, mon seul rival international, c'est Tintin », on est tenté de croire qu'on a réussi quelque chose de grand, non ?
Non, écoutez, il suffit d'une chose comme celle-ci que je racontais l'autre jour. C'était à une inauguration de je ne sais plus quelle exposition de bande dessinée, et il y avait là donc les éditeurs, il y avait un ministre qui me dit, eh bien, mais combien d'albums sortez-vous par an ? Et je lui ai dit, écoutez, excusez-moi, mais il faudrait plutôt retourner la question, combien d'années faut-il pour faire un album ? Me voyons, me dit-il, je le vois sortir sans arrêt, vos Astérix. Ça donne un peu plus de modestie, ne croyez pas.
Mais un album vous demande 3 ans de travail.
Oui, 2-3 ans au moins.
Donc,
oui,
dans le court espace de 10 années, vous donnez à lire 3 albums.
En principe, oui.
Tintin pourrait vous échapper un jour.
Je vois pas comment.
Mais vous le confiez à quelqu'un d'autre.
Ah, je le ferai pas.
Mais pourquoi ?
Parce que je crois malgré tout que c'est une œuvre, évidemment. Je sais bien qu'il y a des collaborateurs, je l'ai dit tout à l'heure, et je leur rends hommage quand je peux. Et c'est un travail à la fois d'équipe, mais je sais que tous les personnages, je sais que l'histoire elle-même, c'est malgré tout, c'est moi avec ce que je suis, enfin simplement comme ça. Et personne, si quelqu'un d'autre le reprenait, il le ferait mieux, il le ferait moins bien, il le ferait en toute façon autrement, très différemment de moi, parce qu'il n'aurait pas les mêmes poumons que moi, le même cœur que moi, je dirais les mêmes tripes que moi, n'est-ce pas ?
Hergé, si un jour Tintin, qui est quand même un personnage de la littérature, obtenez le prix Nobel.
C'est
très
vite,
franchement,
ça.
Vous avez rêvé de ça ?
Non, pas du tout.
Vous n'y avez jamais pensé ?
Non, pas du tout. Non, pas du tout, réellement.
Pensez-y un peu.
Je vais y penser. Vous allez me donner des idées de grandeur.
Merci, Hergé.
Merci.
Le dernier épisode du feuilleton Les cigares du pharaon, c'est ce soir à 20h30. Et l'intégralité de notre semaine Tintin encore et toujours est à retrouver sur franceculture.fr à la page de l'émission Un autre jour est possible. La semaine prochaine, je vous propose une traversée du Sahara avec l'historien Michel Pierre. Bonne matinée, bon week-end, à lundi.
Nom d'une pipe.
Il avait le signe du pharaon brodé sur son costume. Que peut bien faire cette personne en pleine nuit en soutane et cagoule ? Sapristi, encore une. Hep. Et voilà. Vous permettez, monsieur, que je vous déshabille ? Oh. Quel drôle de costume, vraiment. Et puis en plus, on y voit à peine là-dessous. Bon. Maintenant, allons voir où se dirigent tous ces clowns.
La suite du feuilleton Tintin, les cigares du pharaon, ce soir à 20h30.